On parle de la fête de la Saint-Jean. Et quand j'étais jeune, c'était une fête religieuse importante dans mon village. Là, comme d'habitude, il y avait une messe, ensuite il y avait une parade avec des chars allégoriques et décorés avec de la fougère. C'était assez rudimentaire il y a 55 ans. Et aujourd'hui, la Saint-Jean-Baptiste, c'est plus une fête de famille ou de village, mais c'est une fête où il y a des shows. Québec, Montréal, dans les grandes villes, il y a des shows. Et autrefois, on appelait ça la Saint-Jean-Baptiste. On a enlevé le mot « baptiste ». Je ne sais pas pourquoi on a enlevé ce mot-là, parce que j'en connais des baptistes, puis ils ne sont pas si pires, les baptistes. On essaie de l'enlever, et on appelle de plus en plus le 24 juin la fête nationale des Québécois. Et le fait qu'on ne fête plus Saint-Jean-Baptiste, ça ne me dérange pas comme tel, parce que le Seigneur ne nous demande pas de fêter les saints. Et même lui, Jean-Baptiste, ne désirait pas être glorifié. Jean-Baptiste, lui, il ne désirait pas qu'on le fête. Il a été fêté malgré lui. Et lui, parce que Jean-Baptiste, lui, voulait attirer l'attention sur Jésus. Et pas sur le messager, mais sur le message qui, il disait qu'il venait pour Jésus. Et on va regarder. Ça va avancer. Dans Luc, les propos de Jean. Et qu'est-ce que lui disait, c'était quoi son ministère? Donc, Jean chapitre 3, versets 15 et 16. « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il a répondu à tous, donc il a dit, « Qui je suis? Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Donc, Jean était rempli de l'Esprit et Jean pointait vers Jésus, pas vers lui. Donc, il va venir après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. Et il va vous baptiser, pas d'eau comme moi, mais d'Esprit Saint et de feu. Donc, Jésus va nous envoyer le Saint-Esprit. Et le feu, c'est la purification du péché, ici, dans le sens, dans le contexte. Donc, Jésus, ou Jean rempli du Saint-Esprit, voulait révéler Jésus, parce que le Saint-Esprit a le désir de révéler Jésus. Donc, ce matin, nous n'allons pas parler de Jean, mais nous allons parler d'une autre personne qui n'attire pas l'attention sur elle, mais qui veut que Jésus soit mis en évidence. Et cette personne, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Et quand je dis Dieu le Saint-Esprit, on dit, oups, ça semble drôle, hein? On n'est pas habitué d'entendre Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit est Dieu, il possède tous les attributs de la divinité, sauf qu'il est plus effacé. Dans certains milieux évangéliques, on met beaucoup d'accent sur le Saint-Esprit, sur les signes, les manifestations extérieures de l'Esprit, comme le parler en langue, les miracles, les guérisons. Et dans nos milieux baptistes, on est plus gêné, plus timide de ces dons-là. On veut éviter absolument tous les débordements. Et par contre, on ne met peut-être pas assez l'accent sur le Saint-Esprit. On n'en parle peut-être pas assez. C'est sûr qu'il ne faut pas mettre le Saint-Esprit en évidence, mais au moins parler de son ministère qui est vraiment grand. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, on ne serait pas ici ce matin. Donc, son ministère, je l'ai résumé en quatre actions. C'est rien de parfait. La première, il nous révèle la vérité. Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité. Donc, il est la lumière qui nous éclaire, qui éclaire nos cœurs, du non-croyant comme du croyant. Premier point qu'on va voir. Le deuxième, il nous console, il nous fortifie. Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc, il nous fortifie aussi dans notre être intérieur, parce qu'il habite en nous. Troisièmement, il nous transforme. Dans Galates, chapitre 5, verset 22, on a le fruit de l'Esprit, et différent, que je l'ai mis au pluriel, je n'aurais pas dû, fruit. Donc, parce que je vais peut-être me tromper dans mon message, là. Il y a le fruit de l'Esprit, et ça se traduit en plusieurs qualités ou plusieurs vertus, qui est l'amour, la joie, la paix, etc. Et quatrième chose, le Saint-Esprit nous équipe pour le servir, les dons et sa puissance. Maintenant, on parlait surtout des trois premiers, on ne parlera pas des dons, on parlait de sa puissance également. Si vous voulez, on va prier. Notre Dieu, on veut mettre ce temps à part, Seigneur, pour venir devant toi ensemble, tous ensemble comme Église, pour scruter ta parole, pour regarder ce que tu as à nous dire. Et notre Dieu, je te prie que tu m'utilises comme serviteur pour communiquer droitement ta parole, et aussi que tu touches mon cœur et le cœur de ceux et celles qui sont ici, afin qu'on puisse apprendre de nouvelles choses sur toi, afin qu'on soit transformé, afin que Jésus soit plus grand dans nos vies, qu'il soit plus présent quand on va sortir d'ici. Seigneur, c'est ta volonté et on te prie dans ce sens, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu que le premier ministère, un des ministères de l'Esprit, c'est de révéler la vérité. Il est décrit comme étant l'Esprit de vérité. Nous allons regarder un verset dans Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Donc, Jésus était un consolateur, il était avec eux. Et le mot « consolateur » veut dire, on le traduit souvent par « avocat », si on veut le mettre plus long, c'est « celui qui accompagne, qui est auprès d'eux pour soutenir », comme un avocat qui vous représente aussi. Donc, celui qui nous défend, qui nous soutient, qui nous console, un autre que moi, qui soit éternellement avec vous. Donc, Jésus a été avec eux 3 ans, parce que les disciples étaient inquiets quand Jésus a dit « je vais m'en aller, il faut que je m'en aille, vous ne me verrez plus ». Et ici, il dit « ben, je vais vous envoyer un autre consolateur qui va être éternellement avec vous ». Donc, le Saint-Esprit va être encore là, au ciel, toujours. Verset 17, il l'appelle l'Esprit de vérité. Donc, on voit que Jésus utilise souvent l'expression « l'Esprit de vérité », parce que ça le caractérise. Il est le contraire du diable, il est décrit comme étant le père du mensonge. Donc, l'Esprit est tout à fait le contraire. Donc, verset 17, « l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Donc, il demeure près de vous parce que l'Esprit Saint était près d'eux, dans la personne de Jésus, et qu'il sera en vous. On sait que le Saint-Esprit a été manifesté de façon définitive à la Pentecôte, 3 jours après que Jésus a été enlevé, et tous ont été, à ce moment-là, baptisés et remplis du Saint-Esprit. Il y a une différence entre les deux, je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, Esprit de vérité par opposition à Père du mensonge, qui est le diable. Et qu'est-ce que ça produit, la vérité? Qu'est-ce que ça donne, la vérité? Bien, c'est tout, la vérité. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité. » En dehors de lui, il n'y a pas de vérité. Donc, par la vérité fait un travail dans le cœur du non-croyant pour le convaincre qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'être sauvé. Et nous avons ça dans Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, Jésus parle ici, « Je vous le dis en vérité. » Encore, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur, encore le Consolateur, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, et il envoie son esprit pour convaincre le monde de péché, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on a besoin d'un sauveur, si on ne comprend pas qu'on est pauvre, misérable, pécheur, séparé de Dieu, pas péché dans le sens que, oui, j'ai fait un mensonge ici, telle affaire, mais c'est dans mon cœur, dans mon orgueil, dans mon désir de vivre ma vie par moi-même, sans me soucier de Dieu. C'est ça le péché qui me sépare de Dieu, et tout le reste en sont des conséquences. Et il convaincra le monde. Le mot « convaincre » ici, c'est un terme juridique, comme un avocat qui essaie de convaincre le juge qu'il a raison. Donc, convaincre, si c'est apporter des témoignages qui vont prouver la faute. Le Saint-Esprit va nous éclairer pour qu'on réalise nos fautes. Il va nous persuader de la vérité et nous faire reconnaître nos fautes. Quand je n'étais pas croyant, j'étais un bon petit gars. J'espère que je ne suis pas pire aujourd'hui. Je volais pas, oui, je volais une petite affaire, mais je faisais pas de mal à personne. C'était ça ma devise, mon principe. Je fais pas de mal à personne, donc je suis un bon gars. Sauf que je réalisais pas que bon, j'avais une tête dure, que j'avais de l'orgueil dans mon cœur, de l'envie, de la jalousie, de l'amertume. Et quand l'Esprit de Dieu m'a éclairé, après le Seigneur, révèle-toi à moi, j'ai prié beaucoup pendant plusieurs mois. C'est comme j'ai réalisé que, ouf, comme la lumière est venue dans mon cœur. Puis là, j'ai vu qui j'étais et comment Dieu était. Il me sentait vraiment loin, séparé de Dieu. Donc, il m'a convaincu que j'étais un pécheur. Et quand je prie pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il dit, Seigneur, première chose, montre-lui son cœur. Combien il est pécheur, sans le réaliser. Donc, le Saint-Esprit met la lumière pour qu'on réalise qui nous sommes vraiment devant lui et à quel point nous avons besoin de Jésus. Si Jésus, si on n'avait pas eu besoin de Jésus, il aurait simplement envoyé la loi, ça serait resté comme ça. Non, Jésus est venu mourir sur la croix pour me donner le salut et ça doit me faire réfléchir. Aussi, l'Esprit convainc, j'ai dit le croyant, le non-croyant, il convainc aussi le croyant parce qu'on continue de péché, peut-être moins qu'avant, mais plus on se rapproche du Seigneur, plus on voit qu'on a des choses à changer. Donc, pour le croyant, l'Esprit-Saint aussi nous aide à réaliser nos péchés. Donc, nous lisons dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc il parle à des croyants à ce moment-là, donc si on dit qu'on n'a pas de péché, c'est quoi? Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc, même comme chrétien, comme croyant, oui, il y en a encore, malheureusement, du péché qui est là. Puis on ne peut pas dire, on n'en a pas, on est parfait. Et si on dit ça, c'est parce que le Saint-Esprit ne nous éclaire plus. Et plus l'Esprit nous éclaire, plus on va les réaliser, ces péchés-là, et plus on va les confesser. C'est ça, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Confesser nos péchés, ce n'est pas aller à la confesse. C'est être d'accord avec Dieu. C'est admettre que ce que j'ai fait, c'est un péché. Donc, c'est devenir d'accord avec Dieu que le Saint-Esprit me convainc, il me fait admettre que oui, je me suis endurci, j'ai fait telle affaire. Donc, il me montre que c'est un péché. Mais il ne m'écrase pas de culpabilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'amène à Jésus pour l'obtention de son pardon et de la purification. Donc, le Saint-Esprit ne nous écrase jamais. Il ne nous accuse, ne nous accuse pas, il ne nous excuse pas, il nous convainc, il nous conduit à Jésus pour le pardon et la purification. OK? Donc, ministère, un des ministères dans la vie du croyant, qu'il continue à nous révéler nos péchés, heureusement. Maintenant, le ministère le plus important comme esprit de vérité, c'est qu'il nous révèle la personne de Jésus-Christ et son amour pour nous. Donc, on y va encore avec un autre verset. J'ai beaucoup utilisé l'évangile de Jean parce que Jésus parle de l'Esprit-Saint lui-même, vu que ce soit Jésus qui en parle. Plus tard, on va aller dans Éphésiens, quelques versets. Donc, Jean, chapitre 16, verset 13. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité encore, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera. Lui me glorifiera. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas là pour être glorifié, n'est pas là pour régner. Il est là pour que Jésus règne, pour que Jésus soit compris, connu, glorifié tel qu'il est. Et on ne connaît pas Jésus comme il est vraiment, parce qu'il est tellement grand, il nous dépasse tellement. Notre compréhension est limitée par rapport à tout ce qu'il est. Donc, lui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans le fond, le Saint-Esprit n'a pas apporté son propre enseignement, mais il a répété, il nous rappelle les paroles de Jésus. Et il a rappelé aux disciples les paroles de Jésus qui ont pu écrire les évangiles. Et le Saint-Esprit a aussi éclairé des gens comme Paul et tout ça, Pierre, pour écrire la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit n'est jamais, jamais glorifié. Donc, le Saint-Esprit n'a pas son propre enseignement, mais il rappelle, il met en évidence l'enseignement de Jésus. Une citation ici de M. Pierre Marcel, il dit, « Le Saint-Esprit a le désir ardent de révéler Christ. C'est un besoin chez lui de faire connaître Jésus-Christ. » Donc, il illumine, il met la lumière dans nos cœurs pour qu'on connaisse la vérité qui est Jésus. Je vous donne un exemple. Vous voyez le texte qui est écrit là. Avez-vous pensé au projecteur? Non, hein? Peut-être ceux qui sont à la technique pensent, oui, le projecteur fonctionne bien ce matin, tant mieux. Mais on est attiré par qu'est-ce qu'on voit là. Le projecteur envoie l'image, mais le projecteur, lui, on ne le voit pas. Et le Saint-Esprit est un peu comme le projecteur, dans le sens qu'il éclaire Jésus, il montre la vérité, il l'éclaire, mais lui, il est comme effacé. Mais c'est bon quand même de connaître son ministère. Des fois, on l'oublie, parce qu'il est, je ne dirais pas qu'il est timide, mais son rôle n'est pas d'être glorifié. Okay? C'est bon quand même de connaître le rôle de tout ce qu'il fait. Donc, il illumine nos cœurs, il fait que Jésus paraisse. Mais lui, comme tel, il n'attire pas l'attention sur lui. Un verset dans Éphésiens, traduction Bible du Semeur, Éphésiens 1, 17, c'est Paul qui prie. « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Donc, l'apôtre Paul ici, il prie pour les croyants afin que l'Esprit de Dieu révèle des choses pour qu'on le connaisse, c'est-à-dire Jésus. Donc, une des prières de Paul, ailleurs on dit qu'il priait pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre intelligence, afin que vous le connaissiez. C'est important la connaissance de Jésus. J'ai commencé un livre qui s'appelle « Connaître Jésus », écrit par M. Mark Jones. C'est traduit par les éditions Impact. Vous pouvez le voir sur Internet. Pas Impact, mais Publication chrétienne. Donc, connaître Christ. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que de connaître Christ. C'est la chose la plus importante. Et ce monsieur-là nous aide à connaître Jésus davantage, à partir de la parole de Dieu. Donc, j'ai besoin de la lumière des esprits pour connaître Jésus, pour l'adorer tel qu'il est. Une autre citation de M. James Parker. Le Saint-Esprit est en quelque sorte le marieur céleste. C'est beau, hein? Le marieur céleste, dont le rôle consiste à nous unir à Christ et à veiller à ce que nous lui demeurions attachés. Donc, son rôle, c'est de nous amener à Jésus, nous sauver et de veiller à ce qu'on reste attaché. Donc, le ministère du Saint-Esprit continue afin de nous garder près de Jésus, attachés à Jésus. Le marieur céleste. Et on recherche souvent le Saint-Esprit comme ayant un ministère centré sur le chrétien. Et les gens demandent d'avoir le Saint-Esprit, mais pour avoir de la puissance, parce que ça va m'apporter. C'est vrai que le Saint-Esprit donne puissance, il nous transforme. Mais on devrait rechercher le Saint-Esprit davantage pour que c'est ce qui va nous révéler la personne de Jésus. On va voir un petit peu plus loin que le Saint-Esprit. Lorsqu'on le demande, le Saint-Esprit nous contrôle. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Aussi, la vérité nous aide à comprendre la parole de Dieu. Donc, un autre verset ici dans 2 Corinthiens chapitre 3. Quand je lisais la Bible, autrefois, sans l'Esprit de Dieu, je ne comprenais rien. Aujourd'hui, je la lis comme une lettre d'amour que Dieu a mis spécialement pour nous sur terre. Donc, nous lisons, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. » Moïse, c'était l'Ancien Testament, la loi. Il disait que les gens d'époque lisaient ça, mais il y avait comme un voile. Ils lisaient, mais ils ne comprenaient pas. Jésus leur disait, « Vous lisez la loi qui parle de moi, puis vous ne me reconnaissez pas, je suis là, c'est de moi que ça parle. Réveillez-vous. » Verset 16. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, il nous donne son Esprit qui nous aide à comprendre sa parole. Donc, sans si on lit la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu, on ne comprend pas. On ne comprend rien. OK? Et quelqu'un disait, pour connaître la vérité, l'Esprit doit dégainer son épée qui est la parole de Dieu. Et il la rend vivante. Le Saint-Esprit rend la parole de Dieu vivante. Donc, premier point qu'on a vu, Jésus, où le Saint-Esprit est là, son ministère, nous révéler la vérité, la lumière. Et ici, brièvement, je vais parler du deuxième point, qui est, il nous console, nous fortifie et nous soutient. Et dans le sens littéral, j'ai dit tantôt, le consolateur, c'est celui qui est appelé auprès de quelqu'un. Jésus l'a envoyé spécialement auprès de nous. Et regardons encore dans Éphésiens chapitre 14. Et Paul prie encore. Tantôt, il disait, je demande. Ici, il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux. Ça veut dire qu'il prie encore devant le Père. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, ici, il y a de la puissance qui nous fortifie. Dans l'épreuve, dans les choses difficiles, le Saint-Esprit nous fortifie afin qu'on puisse tenir bon, qu'on soit heureux malgré les difficultés. Donc, Dieu nous fortifie. Nous rend capables de continuer malgré les difficultés. Il nous console et nous fortifie. Troisième point, c'est qu'il nous transforme. Comment est-ce qu'il nous transforme? La première chose, c'est qu'il nous fait porter les fruits de l'Esprit. Vous connaissez tous ce verset, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, qu'est-ce que ça produit, l'Esprit? Est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Est-ce que ces qualités me décrivent? Est-ce qu'ils vous décrivent? L'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Est-ce que ça nous décrit? Plus nous laissons la place à l'Esprit de Dieu dans nos vies, plus ces vertus, plus le fruit de l'Esprit va remplacer le péché qu'il peut y avoir en moi, les fruits de la chair. Et juste avant, on ne lira pas, mais au verset 20 ou 21, on parle des fruits de la chair, et ce n'est pas drôle. Mais c'est ce qu'il dit « mais ». Donc, c'est les fruits qu'on porte. Et quelqu'un me disait l'autre jour que il était abstinent, quelqu'un qui prenait de la drogue, de l'alcool, et maintenant il était abstinent. Mais lorsqu'il allait dans les groupes à Alcoolique Anonyme et tout ça, il réussissait à contrôler son désir d'alcool, mais il n'y avait pas les fruits de l'esprit. Il y avait encore rancœur, animosité, colère dans son cœur. Aujourd'hui, en étant chrétien, il n'a pas les goûts non plus de prendre la drogue et de la boisson, mais son cœur est changé. Donc autrefois, il changeait l'extérieur. Maintenant, il a changé de l'intérieur et l'extérieur change. Et je ne veux pas parler contre les mouvements comme Alcoolique Anonyme, etc. C'est vraiment bon et c'est nécessaire. Si on n'avait pas, il faudrait l'inventer. Mais c'est pour dire que lorsque l'Esprit entre en quelqu'un, les fruits de l'Esprit changent de l'intérieur vers l'extérieur et non pas une motivation extérieure qui nous aide à rester comme ça. On ne sait jamais quand ça va tomber. C'est pour ça qu'ils disent « un jour à la fois okay? ». Ils ne sont jamais certains que ça va continuer. Et l'Esprit nous rend capable d'aimer comme Jésus veut qu'on aime. Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée, tu aimeras ton prochain. » C'est gros, ça. Avec le fruit de l'Esprit, on peut aimer davantage comme ça. Ce n'est pas parfait, mais on tend plus vers cela. Et le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour qui vient en premier. Et quand on devient chrétien, je pense que la première chose que Dieu nous révèle, combien il nous aime, combien on se sent aimé et combien on peut aimer. Et c'est un amour authentique, ce n'est pas un amour du bout des lèvres, ce n'est pas un amour forcé, superficiel, mais c'est un amour réel. Et le deuxième, c'est la joie. Dieu nous donne sa joie. Lorsqu'on est rempli d'amour, la joie vient automatiquement. Donc, l'Esprit nous transforme en nous faisant porter le fruit de l'Esprit. Il nous transforme aussi en nous faisant grandir spirituellement. Donc, lorsqu'on devient croyant, on est des croyants, on est au lait maternel, et on grandit spirituellement de jour en jour. Et je vais vous donner un exemple d'un arbre. Qu'est-ce qu'un arbre ou une plante a besoin pour grandir? D'eau, des minéraux dans le sol et de lumière. Si vous enlevez la lumière, la plante ne poussera pas. OK? Et la lumière, c'est l'esprit. Pour le chrétien, on a besoin de lumière pour grandir. Et ce n'est pas abstrait, c'est vraiment concret. Je vais vous montrer. Oh, excusez. Bon, on voit un peu. Ça, c'est, vous avez reconnu, c'est un tronc d'arbre qui est coupé, une rondelle. Et on calcule les années, vous savez tous, là, par tous les petits ronds qu'il y a. Là. On pourrait compter le nombre d'années qu'a cet arbre. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'au début, les premières années, les ronds sont assez gros, puis après ça, ils viennent plus petits. Puis on voit en haut, bonnes conditions de croissance au début, puis en bas, moins bonnes conditions de croissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se peut-tu qu'il y ait manqué d'eau? Si ça en avait manqué, à un moment donné, ça aurait été plus grand. Je crois que dans ce cas-là, c'est que l'arbre a manqué de lumière. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle la compétition entre les arbres? Il y a des arbres qui poussent plus vite que les autres. Supposément, un petit arbre qui pousse, puis à côté, il y a un bouleau ou une aulne de ruisseau qui peut pousser beaucoup plus vite, et l'arbre va manquer de lumière. Donc, à ce moment-là, il va grossir, il ne mourra pas, toujours vivant, mais il ne grandira pas vite. Si on enlève les arbres qui enlèvent la lumière, à ce moment-là, l'arbre va grandir beaucoup plus vite, il va revenir comme c'était avant. Donc, c'est un peu comme ça pour nous. S'il y a des choses qui bloquent la lumière du Saint-Esprit dans nos vies, on va rester croyant, on va rester vivant, mais on ne grandira pas vite. Okay? Un autre tronc, et celui-là, on voit que c'est plus régulier. Donc, lui, il n'y a comme pas eu de compétition. Sauf un petit endroit, là, l'avant-dernier, on voit que peut-être qu'il y a eu une sécheresse à ce moment-là. Ça a été plus une année difficile. Okay? Donc, ici, c'est une croissance qui est plus correcte. Donc, qu'il y avait suffisamment de tout, eau, minéraux, et qu'il y avait de la lumière pour grandir. Donc, un arbre privé de lumière reste petit. J'ai planté sur... je vais vous montrer d'autres choses. Vous voyez ici, il y a comme des arbres. Je vais prendre le laser. Ça, c'est un chemin. La lumière est là. Vous voyez l'arbre ici qui tend vers la lumière? Ici, cet arbre-là, pas de branche côté-là, toujours vers la lumière. Et beaucoup, hein? Quel point la lumière fait grandir, à quel point les arbres... Ça devient un problème dans les chemins, dans le bois, hein, les chemins viennent fermer. Des fois, c'est beau, l'automne, mais des fois, on ne peut plus passer parce qu'il y a trop de branches, il faut émonder. Donc, on voit que l'arbre, la plante, cherche naturellement la lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qui se passe? L'arbre reste petit. On pourrait avoir un chêne qui a un potentiel génétique de devenir un géant, rester petit toute sa vie parce qu'il n'y a pas de lumière. Et un arbre chêne peut avoir 20 ans et être haut comme ça. Je vais vous en montrer un qui a 7-8 ans. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, c'est ça. Vous voyez ici, là, c'est une photo que j'ai prise hier. Vous voyez, habituellement, qu'est-ce qui pousse dans l'année? Il y a un bout de vert. Et ici, vous voyez, il est gris tout le long. Et il y a un petit pouce dans le bout, timide. Peut-être qu'il va grandir d'un pouce cette année. Et s'il y avait plein de lumière, un chêne peut grandir 3-4 pieds par année. Donc, encore l'absence de lumière. C'est important. Pas de lumière, pas de croissance. Et qu'est-ce qui fait l'arbre? Quand il n'y a pas de lumière, il n'est pas fou, il fait des grandes feuilles pour aller chercher l'énergie pour faire la photosynthèse. Donc, quand vous voyez un petit arbre qui a des grandes feuilles, là, dites-vous, ah, il n'y a pas assez de lumière. Et ça en prend beaucoup. C'est une photo que j'ai prise hier. J'en ai une autre. Ici, qu'on voit encore un peu plus. Vous voyez les grandes feuilles par rapport à... Celles-là, ici, sont plus timides, là. Mais il fait des grandes feuilles pour aller chercher de la lumière. Le Seigneur a bien fait ça, hein, pour que l'arbre puisse continuer à vivre, faire la photosynthèse. Donc, la lumière nous fait grandir. Et si vous pouvez retenir juste ça ce matin, mais souvent, ce sont les images qu'on retient. Donc, besoin de lumière de l'esprit pour grandir. Le Saint-Esprit nous transforme aussi en nous remplissant. Vous voyez, la bouteille est presque pleine, mais pas pleine. Remplir, c'est mettre plein. C'est pas à moitié. Excusez. Et on a un verset qu'on connaît bien, qui est Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez plutôt remplis de l'esprit. Ici, la débauche, là, le mot, c'est perte de contrôle de soi, perte de maîtrise de soi. Quelqu'un qui prend trop de vin perd un peu le contrôle de lui-même. Ceux qui en ont déjà pris ou ceux qui ont déjà vu quelqu'un qui en ont pris, la personne perd le contrôle d'elle-même. Donc, ne vous enivrez pas de vin, c'est vous allez perdre la maîtrise de vous-même. Mais, au contraire, mais soyez remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, c'est quoi cette affaire-là? Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir plus d'esprit, s'emparer davantage de l'esprit, parce que l'esprit, on l'a déjà. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'on est sauvé, on a été baptisé de l'esprit. Ah, une table qui s'en vient, on se met à la hauteur. Merci, Gilles.
C'est l'Esprit de Dieu qui m'a mis ça à cœur.
OK. Merci. Donc, on était scellés de l'Esprit au moment où nous avons cru. Le Saint-Esprit est entré en nous et il est complètement en nous. Il n'est pas à moitié en nous. Il est là. Et c'est ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit. Et c'est comme un gage ou un acompte de notre héritage éternel. L'Épître aux Éphésiens nous dit ça. Différence entre baptême du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, c'est qu'on le reçoit lors de la conversion. Certains disent qu'on le reçoit plus tard, bon, à ce moment-là qu'on parle en langue, mais si on regarde la parole de Dieu, ça dit que c'est lorsqu'on est sauvé qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit ou plénitude du Saint-Esprit, ça c'est un acte qui se répète constamment. On voit même les disciples à la Pentecôte qui ont été remplis de l'Esprit. Et plus tard, lorsque Pierre a parlé devant le Sanhédrin, Pierre fut rempli de l'Esprit. Et à certains endroits, on voit Paul fut rempli de l'Esprit. Donc, il y a des périodes de notre vie où on dirait que les gens le sont plus remplis. OK? Donc, et ça répète constamment. Le baptême du Saint-Esprit, ça nous fait entrer dans la famille de Dieu, ça nous incorpore au corps de Christ. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est plutôt la transformation, ça nous remplit de la puissance de l'Esprit. Et il n'est pas ordonné d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas marqué « Soyez baptisé du Saint-Esprit » parce que ça se fait automatiquement. C'est-à-dire « Donnez votre vie à Jésus pour être sauvé et le Saint-Esprit va entrer en vous pour vous baptiser du Saint-Esprit. » Rempli du Saint-Esprit, c'est ordonné. Soyez rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça, ce n'est pas une fois pour toutes. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une fois pour toutes. Donc, plus je laisse de la place dans ma vie au Saint-Esprit, moins il va y avoir de la place pour la chair et le péché. Et plus le Saint-Esprit remplit la bouteille, moins il va y avoir de la place, la bouteille de ma vie, de mon cœur, moins il va y avoir de la place pour le péché et les fruits de la chair. Une autre citation ici de M. Richard Baxter, il disait « Toute œuvre doit s'accomplir spirituellement en tant qu'homme possédé par le Saint-Esprit ». Donc, toute l'œuvre qu'on fait pour le Seigneur, il dit, devrait s'accomplir en tant qu'homme possédé par le Saint-Esprit. Et ça fait drôle le mot possédé ici, hein? Il dit, voyons, le Saint-Esprit nous possède-tu? Le Saint-Esprit nous demande de lui donner le contrôle. Et je crois que ça va là, oui, le Saint-Esprit, ce qui nous possède. C'est sûr qu'il y a des possessions démoniaques. Quelqu'un qui est possédé par un esprit démoniaque, il est vraiment malheureux parce que le démon veut son malheur. Quelqu'un qui est possédé par l'Esprit, il est vraiment béni, heureux parce que Jésus veut son bonheur, Jésus veut l'utiliser, le Saint-Esprit veut le transformer. Donc, puissions-nous être possédés de l'Esprit-Saint au maximum. Et nous sommes portés à chercher, prier d'avoir le Saint-Esprit pour la puissance qu'il va me donner, pour n'importe quoi, pour me fortifier, tout ça, plutôt que de dire, je vais t'appeler du Saint-Esprit pour que tu aies le contrôle sur moi, te donner le contrôle. Et si je lui donne le contrôle, il va me donner de la puissance. C'est pour ça que je voulais avoir, mais je voulais que Seigneur Jésus, je te donne le contrôle de ma vie, remplis-moi ton esprit, et il va me donner de la puissance pour parler, pour vivre, il va nous fortifier. Et cette puissance-là va nous transformer en image de Jésus, va nous rendre capable de témoigner. Et vous connaissez le verset dans les Actes, chapitre 1, où Jésus a dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. » Ici, il ne dit pas que la puissance est une personne, hein, c'est différent, hein, la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas Moi, je dirais, bien, c'est pas juste une puissance, le Saint-Esprit. Là. Il est puissant, c'est une personne puissante. Donc, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, donc jusqu'à trois rivières. Donc, vous serez mes témoins. Et on se souvient, les disciples, quand il n'y avait pas l'Esprit Saint, ils étaient où? Ils étaient dans la chambre haute, ils priaient, les portes étaient fermées par crainte des chefs religieux. 10 jours. Quand ils ont reçu l'Esprit, bang, les portes ont ouvert, et là, ils se sont mis à témoigner. Donc, toute la différence. On a vu Pierre transformé, qui avait renié Jésus, peureux. Maintenant, il était tout transformé. Maintenant, comment être rempli de l'Esprit? Vraiment, le demander. Ici, on a même verset que tout à l'heure. C'est pourquoi je fléchis les genoux. Donc, ça fait 2 fois que je le mets. Je ne le mettrai pas 3 fois. Là. 2 fois, ça va être assez. Là. Écoutez comme il faut. Donc, il dit, il fléchit les genoux. Un petit peu plus loin, on voit à la fin que vous soyez puissamment fortifié par son Esprit. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, demandons-le à Dieu. Et aussi, Jésus a dit de le demander. La dernière fois que j'ai prêché, c'était sur la prière, et il y avait une section que j'avais réservée au Saint-Esprit. J'en ai pas parlé par manque de temps ou, dans le fond, j'avais trop de matériel. Et ici, Jésus, il nous disait, « Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. » Et plus loin, donc il nous exhorte à prier. Puis là, c'est quoi qu'il faut demander, là? Bon, une nouvelle voiture, la mienne est vieille, un compte de banque mieux garni. Quand on continue dans le texte, on voit qu'est-ce que Jésus voulait qu'on demande. On lit, « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Dans le contexte ici, c'était plutôt les dons de l'Esprit, mais ça peut comprendre aussi, si on le demande, d'être rempli du Saint-Esprit, Dieu entend ça et il va répondre. Donc, c'est une prière qui est selon la volonté de Dieu, ceux qui le demandent. Donc, c'est une des choses les plus importantes à demander dans nos prières. Et ce n'est pas comme une chose que je vais posséder le Saint-Esprit. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit me remplit quand je lui donne le contrôle de ma vie. Donc, c'est lui qui me possède, c'est pour moi qu'il le possède. Et si je me mets à sa disposition, bien, il va m'employer pour le travail, pour les œuvres qu'il a planifiées d'avance pour moi. Et je suis rempli parce qu'il prend totalement possession de moi. Ça peut être une passion qui me remplit, qui est plus fort que moi. Vous voyez? Donc, si Jésus me remplit, je vais être fou de Jésus. Je vais goûter à son amour. OK? Et comme on a lu tantôt, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Débauche, je veux dire, perte de contrôle de soi. L'on redonne le contrôle à Jésus, on a la maîtrise de soi. Quand on a vu dans les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, une des qualités, c'est la maîtrise de soi. Donc, lorsqu'on donne le contrôle à l'Esprit dans notre vie, on ne perd pas le contrôle, il nous donne la maîtrise de nous-mêmes. On lui donne le contrôle, mais c'est pas... On n'a pas une perte de contrôle comme lorsqu'on prend de la boisson. Et soyez remplis. On a vu que c'est à la forme passive, donc c'est pas moi qui va me remplir, c'est pas remplissez-vous, c'est soyez remplis, donc c'est le travail de Dieu dans nos vies, c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est aussi un verbe impératif, soyez. Donc, le Seigneur nous demande de rechercher cette plénitude-là, même si c'est pas nous qui la produisons. Donc, maintenant, deuxième condition pour être rempli, c'est avoir soif. Moi, j'ai un peu soif, donc, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir soif. Des versets que Jésus nous a laissés dans Jean. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, y a-t-il quelqu'un ici qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Une soif, on dit cette soif spirituelle, une souffrance, un besoin non comblé. C'est difficile la vie. Et ces gens-là, dans ce temps-là aussi, avaient des difficultés. Verset suivant, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, fleuve par rapport à soif, toute une différence. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À ce moment-là, l'Esprit, on sait qu'il n'a pas été donné. Il a été donné 10 jours après qu'il a été enlevé et qu'il a été glorifié. Donc, cette soif-là est comblée par l'Esprit. Est-ce que j'ai soif? Avez-vous déjà eu très soif? Travailler dehors, il fait chaud, puis l'eau est loin, puis on sait qu'on n'aura pas de suite. Puis là, on pense rien qu'à ça, un verre d'eau. Puis quand on le prend, là, on ne changerait rien pour ça. J'ai soif de l'eau. Et je crois que c'est la chose qui nous manque le plus. On peut être 40 jours sans manger, mais après 3-4 jours sans boire, je crois qu'on se déshydrate, puis on meurt. Donc, il n'y a rien de plus désaltérant que de l'eau. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un a soif. Et est-ce qu'on a soif? Vous connaissez le verset dans l'Apocalypse, lorsque Jésus parle à l'église de la Odyssée, tu te dis en toi-même, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc cette église-là n'avait pas soif. Mais Jésus lui dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Tu es misérable. Et dans la société dans laquelle on vit, il y a plein de choses pour assouvir notre soif. Plein de choses. Et c'est facile d'assouvir notre soif avec ça, de ne plus avoir soif de Jésus. Et Jésus a parlé d'un fleuve. Ici, vous avez les rivières, les ruisseaux, et qui se déversent dans le fleuve et jusqu'à l'océan. Et le fleuve est constamment alimenté par les ruisseaux, les rivières. Et il ne garde pas ça pour lui, il l'envoie dans l'océan. Si le fleuve était bloqué, à ce moment-là, ce serait de l'eau stagnante, de l'eau morte, comme quand j'étais jeune, quand on voyait un marais qui ne débouchait pas. Et c'est la mort. Donc, on doit recevoir constamment et donner constamment. Comme le fleuve Saint-Laurent. Le majestueux fleuve Saint-Laurent qui reçoit l'eau des ruisseaux, des rivières, qui a sa source dans les grands lacs. Et si le fleuve ne recevait pas l'eau de là-bas, il serait à sec. Donc, si on arrêtait, les fleuves, les grands lacs, les ruisseaux arrêtaient du jour au lendemain, peut-être que le fleuve continuerait à couler un petit peu, mais en descendant, maintenant, il n'y en aurait plus. Et c'est un peu comme ça pour le fruit de l'Esprit. On doit recevoir constamment l'apport de l'Esprit-Saint pour être rempli. Et on pourrait traduire, au lieu de soyez rempli de l'Esprit, ce serait « Laissez-vous toujours à nouveau remplir de l'Esprit. » Ce n'est pas une expérience qu'on fait seulement une fois. Donc, une autre condition pour être rempli de l'Esprit, c'est de ne pas l'attrister. Vous connaissez le verset dans Éphésiens, de ne pas attrister l'Esprit. Oh, j'ai oublié une citation, je vais vous la lire. Nous ne pourrons être remplis du Saint-Esprit que si nous recevons à chaque instant la part de la source et si nous la déversons sur les autres. In and out. Donc, l'eau, le Saint-Esprit qui coule en nous, comme Jésus disait, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Donc, il faut que cette eau-là soit déversée sur les autres, que ce soit un trop-plein. Ensuite, le verset dans Éphésiens 4:30 sur la tristesse, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est quoi attrister le Saint-Esprit de Dieu? Dans le contexte, c'est le péché. Si on scelle au péché, à la tentation, on attriste le Saint-Esprit. Et ça vous est déjà arrivé, là? Il me semble que j'étais mieux avant. Il me semble que je me sens plus pareil. Il me semble que je me sens loin de Dieu. Je lis la parole de Dieu, c'est comme si c'était aride. Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce qui bloque la communion avec toi? Seigneur, viens me le révéler. Et une citation de M. Alfred Kuhn. Alfred Kuhn, c'est un Européen qui est... je suis parti à l'envers. Qui a écrit beaucoup de livres, une 60aine de livres chrétiens. M. Kuhn est décédé au mois de mars, au mois d'avril, le 6 avril, il avait 96 ans. Et on lui doit la traduction de la Bible, la parole vivante, et beaucoup de bouquins là, très, très intéressants. Et il disait, dans son livre qui s'appelle « Le baptême et la plénitude de l'Esprit », « Cette puissance n'est jamais acquise, une fois pour toutes. Si quelque faute, si quelque incrédulité vient rompre en nous la communion avec le Saint-Esprit, cette puissance disparaît. » Donc, être rempli du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en nous, il ne faut jamais tenir ça pour acquis. Ça peut partir à cause d'un péché ou d'une faute. Et il n'y a pas un péché sur terre qui peut nous combler une fois pour toutes. On peut penser qu'un péché va combler un besoin, une soif, mais un coup qu'on l'a fait, il faut le refaire encore parce qu'on a encore soif. Et qu'est-ce que ça crée? On s'éloigne du Saint-Esprit, on vit la culpabilité. Mais Jésus a dit, si quelqu'un a soif, venez à moi. N'allez pas dans ces choses-là. Lui seul peut satisfaire les besoins les plus profonds de mon cœur. Donc, si on a attristé le Saint-Esprit, c'est le verset que j'ai montré tantôt, verset 9, dans 1 Jean, chapitre 1. Si nous confessons nos péchés, il va nous les pardonner. Donc, si on se rend d'accord avec Dieu que qu'est-ce qu'on a dans notre vie, c'est un péché, Jésus nous le révèle, l'Esprit nous le révèle, on le confesse. Et le Saint-Esprit, c'est contraire à l'ivresse du vin, parce qu'il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Être intoxiqué par l'alcool, c'est une perte de contrôle de soi. Donc, l'alcool affecte les fonctions du cerveau, notre perception, notre humeur, notre comportement. Elle enlève nos inhibitions. On va dire des choses, faire des choses qu'on va regretter, qu'on n'aurait pas fait autrement. On manque de jugement parce qu'on est ivre. Et Jésus nous appelle, au contraire, à être contrôlés par l'esprit, non par des substances extérieures qui peuvent nous rendre joyeux, mais qui peuvent nous rendre malheureux à long terme. Et l'intoxication, c'est un fruit de la chair qui est complètement opposé au fruit de l'esprit. Ça peut nous aider à fuir la réalité du quotidien, la boisson ou la drogue, mais c'est accepter quelque chose de mensonger que de dire « Ah, c'est ça la vérité » parce qu'il faut toujours le renouveler et ça nous détruit. C'est hors de la volonté de Dieu. Une petite parenthèse pour parler du cannabis. On sait que ça va être légal à compter du 17 octobre au Canada. Légal ne veut pas dire bar ouvert, on peut, c'est plus péché, c'est permis. Je vous donne un exemple. Pas parce que c'est légal que c'est bon pour nous. L'avortement, c'est légal. Est-ce que c'est bon pour un croyant? L'adultère, c'est légal aussi. La pornographie, en tant que c'est entre adultes, consentant, c'est légal. Donc, toutes les choses que Dieu nous demande de ne pas faire, qui sont légales. Donc, utilisons notre jugement concernant l'utilisation du cannabis. La marijuana produit des effets sur le cerveau qui sont différents de la boisson, mais qui sont là quand même et que ça peut altérer le jugement. Ça nous fait fuir la réalité. Il y a des différences, mais il y a des ressemblances. La Bible interdit l'ivrognerie, mais elle n'interdit pas l'alcool. C'est une différence, là. Donc, je peux consommer une petite quantité d'alcool à condition de ne pas être intoxiqué, de ne pas me sentir feeling ou de ne pas être transformé. Donc, un verre de vin en mangeant, je ne pense pas que ce soit ça que Paul veut dire quand il dit « Ne vous enivrez pas de vin », parce qu'il recommande même à Timothée d'en prendre un petit peu de vin pour ses indispositions digestives. Pour le cannabis, une petite quantité peut produire un effet. Ceux qui en ont déjà pris, ça n'en prend pas, surtout aujourd'hui qui est rendu très bon. Dans mon temps, je prenais 3-4 puffs, mais aujourd'hui avec une puff, je crois qu'on a un effet. Et lorsqu'on en prend, ce n'est pas pour le goût. J'en ai déjà pris, moi j'haïssais fumer. Je prenais pour le goût. Donc, ceux qui prennent du cannabis, c'est pour avoir un effet. Ce n'est pas pour leur santé. OK? Maintenant, similitude entre la plénitude du Saint-Esprit et l'alcool. L'alcool peut nous dominer, le Saint-Esprit nous possède, nous utilise. Lorsqu'on prend de la boisson, on n'est pas timide. Le Saint-Esprit nous enlève la timidité. Moi, j'étais bien timide avant. Je suis peut-être encore un peu, là, ça paraît moins. Mais quand j'ai commencé à prendre de l'alcool, ça m'a, je vais dire déniaisé. Les gars disaient déniaisé, là, mais ça m'a dégêné. Mais quand, depuis que j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai plus besoin de ça pour être capable d'affronter le monde, d'affronter le public, parler. Et c'est ça. Donc, l'alcool enlève la timidité, mais l'Esprit Saint le fait de meilleure façon, tout en nous permettant de garder le contrôle, la maîtrise de nous-mêmes. La boisson nous fait chanter. Et le Saint-Esprit nous fait chanter, louer. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a le goût de chanter la parole de Dieu, les bons cantiques. Un autre verset, c'est juste avant, pour situer dans le contexte, juste avant Éphésiens 5, 18, donc verset 15, « Veillez donc avec soin sur votre conduite. » Donc, Paul, ici, il est rendu dans la partie d'Éphésiens où, à cause de ce que Jésus a fait pour nous, à cause de ce qu'il est, deuxième partie, comme Joël nous l'a expliqué, c'est notre conduite qu'il faut veiller là-dessus. Donc, veillez sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Donc, Dieu vous a donné une intelligence, un jugement, servez-vous-en. Rachetez le temps quand les temps sont mauvais. Donc, les gens dans lesquels, le temps dans lequel Paul était, c'était mauvais, imaginez aujourd'hui. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Donc, servez-vous de votre intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi que Dieu veut pour ma vie? C'est quoi que Dieu veut pour votre vie? Et tout de suite après, il vient dire, « Oups, prenez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis de l'esprit. » C'est ça, la volonté de Dieu. Et des fois, on dit, tu sais, quand on dit, « Si tu péchais, si tu pas péché, je le fais-tu, je le fais-tu pas? » L'abstinence a bien meilleur goût, comme on dit. Donc, c'est mieux de s'abstenir. Et dans « Soyez remplis de l'esprit », le verbe est au pluriel. C'est pas marqué « Les anciens, soyez remplis d'esprit », ou juste les femmes, ou juste les adultes, les enfants aussi. Je ne dirais pas un bébé, là, mais aussitôt qu'on peut comprendre la différence entre le bien et le mal, soyez. Tout le monde est appelé à être rempli du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit, comme j'ai dit, le principal rôle du Saint-Esprit, c'est de révéler Jésus. Mais est-ce que cette relation-là avec Jésus est importante pour moi? Est-ce que je vais avoir le Saint-Esprit juste pour me sentir bien, pour la puissance pour témoigner? Ou est-ce que, oui, c'est bon, la puissance pour témoigner, il en faut. Mais est-ce que c'est pour mieux connaître Jésus, mon Sauveur, le Créateur de l'univers, celui qui possède tout, celui qui est tout? Tout est en lui, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Donc, est-ce que c'est important? Est-ce que j'ai soif de la présence de Jésus? Soif de la présence de Jésus. Quand Jésus est vraiment présent dans nos vies, il nous transforme sans qu'on s'en rende trop compte, c'est lui qui le fait. Et il y a tellement de choses dans le monde, comme j'ai dit, qui vont combler notre soif, qu'on est moins attiré. Et on sait que la nature humaine a horreur du vide. Quand Jésus n'est pas là, quand l'Esprit n'est pas là, c'est d'autres choses qui doivent le remplir. Peut-être quelque chose qui est péché, peut-être quelque chose qui n'est pas péché, mais qui prend trop de place. Et entre vous et moi, on ne sera jamais satisfait de ce qu'il y a sur terre. Jamais complètement satisfait de notre Église. Jamais complètement satisfait des chrétiens. Jamais complètement satisfait de notre santé. Jamais complètement satisfait de notre condition financière. On ne sera jamais totalement comblé. OK? Et il y a toujours quelque chose qu'on va vouloir changer puis améliorer pour que ça aille mieux. Et une des choses qu'on voudrait améliorer, c'est notre compte de banque. Hein? Combien il y en a qui veulent être millionnaires? Ça va régler tous mes problèmes. C'est une illusion. Parce que si je suis millionnaire, ça n'enlèvera pas la maladie, les souffrances. L'argent ne change rien là-dedans. Je vais mourir pareil. Si je suis millionnaire, ça rend... réparera pas les relations brisées, que j'ai brisées, ou les gens qui m'ont blessé. Mes blessures d'enfance n'en iront pas, même si je suis millionnaire. Même le fait d'avoir beaucoup d'argent peut devenir une source de conflit. Mes amis seront-ils des vrais amis? Mes nouveaux amis? Donc, il n'y a rien sur terre qui peut vraiment nous combler, sauf ma relation avec Jésus. Et qu'est-ce qui comble votre vide actuellement? Y a-t-il quelque chose à quoi vous aspirez? Ah, oh, c'est ça qui me prend. Ah, oh, si ça, ça allait mieux, je serais correct. Qu'est-ce qui me comblerait davantage? Est-ce que je soupire après quelque chose? Est-ce que j'ai soif? Et bien souvent, c'est Dieu qui écrit ces soifs-là dans nos vies. Et nous, on a une façon d'assouvir cette soif-là. Et Jésus en a une. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, venez à moi. Jésus vous invite, nous invite, à venir à lui. Et Jésus nous connaît plus qu'on se connaît. Nous, on pense que c'est ça que j'ai besoin, mais Jésus sait que nous, on a besoin de lui. Et le Saint-Esprit va nous révéler Jésus si on le cherche. Donc, je vous invite à venir à Jésus avec une attitude de soumission, pour vouloir faire sa volonté. Et lui dire, Jésus, je veux te connaître. Par ton esprit, éclaire mon cœur. Je veux que tu me fasses grandir. Et ça, on ne peut pas faire ça dans le trafic ou dans le train-train de la vie, la course de la vie. faut prendre du temps à part avec Jésus. Il faut prendre du temps à part avec Jésus. Et c'est vrai qu'on peut prier dans notre auto. Je prie souvent dans l'auto, j'aime ça. Mais quand on prend du temps à part, tu dis, je fais juste ça. On dirait que ça fait plaisir au Seigneur. Du temps à part que tu mets juste pour lui. On dirait que c'est particulier. Donc, demandez à Jésus qu'il nous donne toute la lumière qu'on a besoin pour grandir. Lui seul peut le faire. Si vous voulez, on va prier, on va terminer là-dessus. Ensuite, François va venir pour nous accompagner dans le dernier chant. Donc, prions. Seigneur, nous ne sommes pas toujours conscients de nos besoins réels, mais toi, tu les connais. Et c'est pour ça que tu permets des choses dans nos vies qu'on ne comprend pas des fois, afin de nous attirer à toi, de nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et merci, notre grand Dieu, merci Jésus d'avoir envoyé ton Esprit Saint pour nous consoler, nous fortifier, nous éclairer sur toi, sur nous. Oh, que ferions-nous sans toi? Que ferions-nous sans lui? Puisses-tu, notre Dieu, éclairer les yeux de nos cœurs afin qu'on voit te voir resplendir sur la face de Jésus. Oui, Jésus est tellement plus grand que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Des fois, on a l'impression qu'on le connaît assez et qu'on ne le connaîtra jamais plus. Mais toi, tu as un désir de te révéler à nous. Tu as un désir d'être plus grand dans nos cœurs. Tu as un désir de nous serrer dans tes bras d'amour. Seigneur, nous avons besoin que tu sois glorifié par nos vies. Seigneur, nous implorons ton Esprit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour nous transformer, pour nous rendre semblables à toi. Amen.